France Culture.
Samedi 31 mai, Hichem Mirawi, un Tunisien de 45 ans, a été tué par balle et un homme turc a été blessé dans le Var. Avant de passer à l'acte, dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, le suspect, âgé de 53 ans, avait annoncé son intention de tuer des personnes d'origine maghrébine et de confession musulmane. Alors ce soir, une question. La menace terroriste d'extrême droite est-elle suffisamment prise au sérieux, prise en compte? Et deux invités pour y répondre. Sébastien Bourdon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde, auteur de Drapeau noir, jeunesse blanche, enquête sur le renouveau de l'extrême droite radicale, un ouvrage qui a paru au Seuil en janvier dernier. Avec nous et à distance, François Tuillier, bonsoir. Vous êtes ancien officier des services antiterroristes, chercheur associé au Centre d'études sur les conflits, liberté et sécurité, auteur notamment de l'ouvrage intitulé « La révolution antiterroriste, ce que le terrorisme a fait de nous » qui a paru au temps présent, c'était en 2019. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Ce crime est beaucoup plus qu'un crime, parce que c'est un drame, c'est une tragédie. Et au moment où je vous réponds, j'ai encore une pensée pour la victime, pour ses proches, pour sa famille que nous avons, comme vous le savez, retrouvée, mais aussi pour la communauté tunisienne. Ce crime, il était non seulement prémédité, mais il était aussi signé. C'est un crime qui est un crime raciste. C'est sans doute aussi un crime anti-musulman, je dis sans doute parce que c'est au PNAT qui s'est saisi à l'autorité judiciaire désormais d'en faire tout l'éclairage, de le documenter. C'est sans doute aussi un crime à dimension terroriste. J'ajoute une quatrième qualification, c'est que quand on voit au fil des jours les différentes informations qui nous sont remontées, c'est un crime dont l'idéologie s'enracine dans une ultra-droite radicale, comme j'ai pu m'en entretenir avec le procureur national.
Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et l'on apprenait cet après-midi que le principal suspect du meurtre d'Hichem Mirawi reconnaissait les faits, mais contestait toute motivation raciste, alors que pourtant, quelques jours avant le meurtre, il avait déclaré sur les réseaux sociaux « Moi, il n'y a pas d'allégeance à Al-Qaïda ou quoi que ce soit. Moi, c'est l'inverse. C'est l'allégeance au bleu, blanc, rouge. » Sébastien Bourdon, comment est-ce que vous interprétez justement cette observation de la part du principal suspect ?
Alors, je pense que ça va être difficile à maintenir comme ligne. Les vidéos, les multiples vidéos qu'il a publiées en ligne sur son profil Facebook, juste avant de passer à l'acte et dans les heures qui ont suivi, sont on ne peut plus explicites et il multiplie les propos racistes, il multiplie les propos, il appelle notamment à viser les islamiques, je cite, d'autres termes racistes pour désigner les personnes arabes notamment. J'ai du mal à voir comment il va pouvoir expliquer de façon raisonnable au long cours qu'il n'y avait pas de caractère raciste à son geste.
François Tuillier, depuis sa création en 2019, le PNAT, le parquet national antiterroriste, se saisit pour la première fois d'une affaire d'homicide liée à l'extrême droite. Là aussi, comment vous expliquez cette première ? Est-ce que c'est parce que depuis 2019, aucune affaire n'était liée à l'extrême droite, ou bien c'est parce qu'il y a un changement dans la ligne du PNAT et du parquet national ?
Alors sans doute, parce que en fait, c'est effectivement la première fois. C'est un acte juridique relativement symbolique et fort. Le fait de reconnaître au niveau central des poursuites la saisine du PNAT. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est incontestable. Effectivement, comme il a été dit, son acte est relié clairement à un message politique. Et puis, il est assorti d'une communication qui vise à propager la peur envers une partie de la population. Donc, la saisine était relativement évidente. Elle implique un certain nombre de conséquences en termes de procédures pénales, en termes de moyens d'enquête qui vont être extrêmement importants, de coopération internationale s'il y a lieu. Mais en tout cas, il est clair que de toute façon, il y a des enquêtes antiterroristes qui peuvent se dérouler en dehors et qui ont été déjà diligentées en dehors de l'ombrelle nationale du PNAT. Mais là, c'est une symbolique relativement forte qui dénote sans doute une prise de conscience du parquet de l'importance du sujet aujourd'hui.
Vous dites, François Tullier, s'agissant du meurtre d'Hicham Mirawi, cette fois-ci, il n'y a pas doute quant au caractère raciste de la démarche. Est-ce qu'il y avait plus de doutes le 25 avril dernier, lorsque Aboubacar Cissé, un musulman de 22 ans, a été assassiné de plusieurs dizaines de coups de couteau, son assaillant criant « Ton Allah de merde, ton Allah de merde ».
Oui, mais dans le cas d'espèce, il n'y avait pas eu de communication. Vous savez, les critères sont relativement restrictifs. Il n'y avait pas eu de communication publique sur les réseaux sociaux. Alors, mais la saisine en fait du PNAT répond à des critères qui se veulent objectifs, mais qui le parquet garde quand même une certaine marge de manœuvre pour se saisir ou pas. Il n'a pas jugé bon de le faire à l'occasion de cette affaire. Bon, il aurait pu le faire, mais dans le cas d'espèce du meurtre d'avant-hier, là, il n'y avait aucun doute sur le sujet.
Sébastien Bourdon, à fin avril, le parquet national antiterroriste avait été critiqué pour ne pas avoir retenu le caractère terroriste du meurtre d'Aboubacar Cissé. Comment est-ce que vous expliquez ce changement de ligne, si on peut l'appeler ainsi ?
Alors j'ai du mal à l'expliquer, je suis pas dans la tête des personnes qui travaillent au PNAT et qui ont pris ces décisions. En effet, en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que d'un point de vue symbolique, ils ont été très fortement critiqués fin avril, et cette saisine-là, dans le cas du meurtre qui vient de se produire, met fin d'une certaine façon à un sorte de sentiment de deux poids deux mesures qu'on a beaucoup entendu dans la société, dans le débat public, avec cette idée que lorsqu'il s'agit d'attaques, de meurtres ou de différents événements en lien vraisemblablement avec une idéologie islamiste, le PNAT se saisit relativement facilement et que dans un certain nombre de cas d'actions violentes attribuées à l'extrême droite ces dernières années, certaines actions violentes ayant fait parfois des morts, parfois plusieurs morts, le PNAT ne s'est pas saisi. C'était difficilement compréhensible, en tout cas pour le grand public.
François Tullier, 12 attentats ont été attribués à l'extrême droite radicale et déjoués en France depuis 2017. Est-ce que vous estimez vous-même qu'au sein des services de l'État, au sein des services de renseignement également, cette menace terroriste d'extrême droite est prise au sérieux ?
Alors, elle est prise au sérieux certainement par les services qui se sont organisés pour cela. De manière plus générale, est-ce qu'elle est prise au sérieux par l'État ? Je crains que non, pour différentes raisons. Il y a une forme de déni d'abord, ou au moins de cécité, c'est-à-dire que on ne veut pas voir. L'État n'effectue aucun suivi des infractions en fonction des motivations idéologiques, donc on est complètement aveuglé sur le sujet. Il y a une forme d'incompréhension aussi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir notamment la spécificité du terrorisme d'ultra-droite. Je suppose qu'on y reviendra, bien sûr, parce que c'est une violence politique relativement spécifique. Et puis, il y a une tolérance, pourquoi ne pas le dire ? C'est-à-dire que l'État ne se tient pas à l'écart de la société et ce qu'on pourrait considérer comme étant la victoire idéologique de l'extrême droite aujourd'hui touche l'État dans toutes ses dimensions, le touche au niveau du pouvoir législatif, qui n'est plus en mesure, dans ce domaine, d'exercer le contrôle de l'État. Il y a des exemples récents, relativement cuisants en la matière. Je me souviens, par exemple, d'une proposition de loi du groupe écologiste, je crois, il y a 2 ans, qui souhaitait faire un état des lieux de la menace d'ultra-droite violente dans notre pays et qui a été torpillé par les députés du Rassemblement National, suivi par LR, suivi par Renaissance, donc ça n'a pas pu avoir lieu. On sait qu'au sein de la délégation parlementaire au renseignement siège une députée Rassemblement National. Je rappelle que la délégation parlementaire au renseignement contrôle justement l'activité des services qui sont chargés d'identifier et de surveiller cette mouvance violente d'ultra-droite. Et puis le pouvoir exécutif, puisque je pense que c'est surtout ça qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire les services qui sont censés identifier, surveiller et réprimer cette mouvance, sont touchés par cette bataille culturelle et vivent une forme d'impuissance en la matière, pour des raisons là aussi relativement évidentes et qui s'incarnent au travers de, par exemple, du vote des forces de l'ordre pour l'extrême droite et des choses relativement fortes comme ça. Donc tout ça entretient un effet un peu anesthésiant, enfin je veux dire démobilisateur, si vous voulez, de l'État qui se retrouve un peu démuni, alors que la menace islamiste avait suscité à juste titre sans doute, une mobilisation exceptionnelle des services, une implication très forte des services répressifs et de renseignement. Là, on a un effet relativement anesthésiant qui est entretenu par cette impuissance des agences de sécurité à lutter contre cette menace bien spécifique.
Alors distinguons bien effectivement les services de renseignement, les services de l'État, les responsables politiques. Si on parle de ces derniers en premier lieu, Sébastien Bourdon, on entendait tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il était tout de même extrêmement clair sur la qualification du meurtre d'Hichem Mirawi. Il parlait bien de crimes racistes, il parlait bien de démarches terroriste, est-ce que cela, ce n'est pas l'indice, l'illustration même d'une prise de conscience du ministre de l'Intérieur, ou en tout cas d'une reconnaissance des faits et du réel ?
Alors, le ministre de l'Intérieur a été très clair, et en effet, on peut s'en féliciter. S'il s'agit d'une prise de conscience, il s'agit vraisemblablement d'une prise de conscience extrêmement récente. Il faut pas oublier quand même que ce meurtre raciste et les différentes actions violentes imputables à l'extrême droite ces toutes dernières années, je l'ai dit tout à l'heure, pour certaines ont fait des morts. On peut, entre autres, très rapidement mentionner, par exemple, la tuerie de la rue d'Enghien, il y a quelques années à Paris, qui a fait quand même 3 morts et 4 blessés, par balle. Cette multiplication d'actions violentes, et on l'a dit aussi, très attentats attribuables à l'ultra-droite déjouée entre 2007 et 2023, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils se font sur une toile de fond. Une toile de fond qui est notre société, avec son débat public, son débat politique, et quand le débat politique de ces dernières années est marqué par une multiplication des termes, pour prendre le plus récent attribué au ministre de l'Intérieur, les fameux barbares, je cite, le terme d'ensauvagement, le terme de grand remplacement, la submersion migratoire, l'islamo-gauchisme et j'en passe et des meilleurs. Évidemment, cette banalisation, cette diffusion des idées de l'extrême droite, des mots de l'extrême droite, le lien de, non pas de causalité, ça on peut pas aller jusque-là, mais en tout cas de la corrélation avec des passages à l'acte violent attribuables à l'extrême droite, et on ne peut plus évident.
La voix de deux hommes, Eliott Bertin et Thomas Miliotti, ils sont d'extrême droite, tous les deux dirigeants et militants de Lyon Populaire, et ils font le lien justement entre le grand remplacement que vous venez de mentionner, Sébastien Bourdon, et leur démarche politique activiste.
Nous aujourd'hui, on se situe plutôt dans une démarche d'aller à notre peuple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise notre époque, notre période. C'est le fait de sortir d'un ghetto politique dans lequel on nous avait enfermés. Pour faire simple, bon, on ne fait pas de distinction entre l'immigration légale et illégale, très honnêtement. Nous, on fait une distinction entre l'immigration européenne et extra-européenne. Pour nous, déjà, un Français, c'est un Européen de langue et de culture française. C'est-à-dire que, par exemple, on ne mettra pas sur le même plan l'assimilation d'un Italien, d'un Allemand, d'un Belge qui veut devenir français, qu'un Camerounais ou un Marocain.
Le but, c'est ça, c'est de se voir grandir, c'est de voir plusieurs personnes venir rejoindre le groupe. En réalité, le remplacement qui existe, c'est un fait. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de dire qu'il n'est pas encore trop tard et arriver à endiguer le problème avant que ça devienne ingérable.
Extrait du documentaire Arte, intitulé « Au cœur de l'extrême droite européenne ». François Titulier, que veulent ces gens, que veulent ces groupes, quelle est, au fond, leur stratégie ?
Non, mais c'est extrêmement intéressant, cet extrait, parce que ça démontre, encore une fois, la porosité idéologique qui existe entre l'extrême droite, même l'extrême droite établie, élue, et l'ultra-droite. C'est-à-dire que l'ultra-droite se nourrit des concepts, des poncifs, du vocabulaire de l'extrême droite, et la frontière idéologique qui existe entre l'une et l'autre est d'une telle porosité que l'ultra-droite s'abreuve en quelque sorte aux motivations idéologiques de l'extrême droite. Mais en même temps, ce qu'on voit également, c'est qu'il y a une espèce de confusion intellectuelle extrêmement importante. C'est-à-dire que ces jeunes gens font appel à une espèce de mythification du peuple français, etc. Alors qu'il n'y a rien de plus étranger à la tradition historique française que ce terrorisme d'extrême droite. Il est contraire et étranger à toute la tradition historique. Cette idée de nation ethnique, par exemple, qui veulent faire leur, n'a jamais existé dans l'histoire de France. Même sous l'Ancien Régime, il n'y a jamais eu de nation ethnique. La France est une nation idéologique, est une nation politique, n'a jamais été une nation ethnique. Donc tout ça est tout à fait contraire et étranger, évidemment, à la République. Mais même à l'histoire de France, qu'ils estiment tenir en si haute estime.
Je reviendrai quand même sur leur stratégie, mais un mot, Sébastien Bourdon, sur ces deux hommes, Elliott Bertin et Thomas Miliotti, que l'on a entendu à l'instant. Vous les connaissez, vous les avez interrogés vous-même dans vos travaux d'enquête ?
Alors, Elliott Bertin, qui est un des cadres et leaders de ce fameux groupe Lyon Populaire, qui est d'ailleurs potentiellement en cours de dissolution, en tout cas c'est ce qui a été annoncé récemment, c'est en effet un des cadres et une des figures connues de l'extrême droite radicale, assez active. Pour situer le personnage, il répondait dans un livre qui comportait une série d'entretiens avec différents militants d'extrême droite, un livre édité dans une maison d'extrême droite il y a peu. Il expliquait notamment qu'il fallait interdire le métissage en France. De façon générale, ce qu'on retrouve au-delà de ce militant en tant que tel, mais on parlait de leurs idées, on a vraiment ces dernières années, à travers la question et ce terme, cette fameuse formule de grand remplacement, un retour de plus en plus assumé dans le discours et dans les actes de ces groupuscules d'extrême droite, d'une centralité de la question raciale. Toujours dans ce même livre d'entretien, une dizaine ou presque de cadres des différents groupuscules d'extrême droite étaient tous interrogés sur la question du grand remplacement et leurs réponses comportaient quasiment tous à l'unanimité des formules du type « il faut que la France retrouve sa cohérence raciale, sa cohérence biologique, sa cohérence ethnique ». Quand on parle de ça, on ne parle de ni plus ni moins que de pureté raciale.
La voix de Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste.
La poussée des groupuscules d'extrême droite s'explique aussi par la surmédiatisation de l'islam radical. Par le terrorisme. Et donc, il y a une menace de terrorisme d'extrême droite qui va monter de plus en plus, de gens qui vont vouloir s'en prendre à l'islam sur le territoire français. Malheureusement, ils ne sont pas assez structurés mentalement, ils vont s'en prendre à n'importe quelle mosquée, n'importe quoi. Même moi, avant que je parte, j'avais déjà eu ça. Un ancien militaire qui avait tiré dans une mosquée, il y avait des épiphénomènes comme ça. Avec une théorie qui est assez extraordinaire, la théorie domino. Quand je lui posais la question, je lui dis « mais ça sert à quoi votre truc ?»« Ah bah c'est très simple. Je m'en prends à des musulmans, va y avoir une réaction de la population musulmane très violente, et donc l'État français va devoir s'en prendre aux musulmans. »
J'en reviens, François Tillier, l'usage de la violence par ces groupes d'extrême droite, par ces individus d'extrême droite. Que vise-t-elle ? Est-ce que c'est si mécaniciste que l'explique Marc Trévidic ? Dans le fond, c'est de créer une nouvelle guerre raciale, de nouveaux conflits raciaux.
Oui, sans doute, mais c'est une menace qui se vit vraiment, comme il le dit, en miroir de la menace islamiste de ces dernières années, qui a augmenté d'ailleurs en France depuis 2015, qui est une date quand même relativement symbolique avec le Bataclan. Donc oui, ça peut être une stratégie qui vise justement à susciter, à aiguillonner l'État dans sa répression contre les musulmans, mais il ne faut pas forcément voir aussi loin. C'est une réaction primaire, raciste, qui vise à exercer la violence contre ce qu'ils estiment être les éléments halogènes à leur vision de la nation française.
Votre point de vue là-dessus, Sébastien Bourdon, vision primaire sans stratégie, ou bien non, c'est une vraie démarche de violence politique qui vise bien plus que l'acte lui-même ?
Alors c'est probablement un mélange des deux. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est l'importance en effet de cette année 2015 et des attentats du Bataclan. Il y a un certain nombre de militants d'extrême droite que j'ai interrogés. Quand ils me parlaient des plus jeunes militants qu'eux qui s'engagent à leur côté, ils me parlaient d'une génération Bataclan.
C'est quel âge plus jeune ?
Des adolescents, des personnes qui, à l'époque, en 2015, étaient enfants, tout juste jeunes adolescents, et qui maintenant sont en fin d'adolescence, jeunes adultes, et qui rejoignent un certain nombre de mouvements d'extrême droite. Les cadres de ces mêmes mouvements, pour désigner ces jeunes recrues, parlaient d'une génération Bataclan. Et ils disaient bien que c'était des jeunes, essentiellement des jeunes hommes, qui étaient des enfants à l'époque des attentats du Bataclan, qui disent avoir été particulièrement marqués par cet événement-là, et voir depuis cet événement comme un sort de point de bascule, la preuve absolue que la cohabitation entre ce qu'ils considèrent être les Français et ce qu'ils considèrent être une population étrangère, musulmane, n'est pas possible. possible. Et donc, à partir de là, se développe une idéologie d'extrême droite, puis un engagement.
Il y a quand même, François Tullier, une singularité française. On est peut-être le seul pays dans lequel cette violence d'extrême droite, ce terrorisme même d'extrême droite, augmente, s'amplifie à travers le temps.
Le seul en Europe, oui. Je dirais pas forcément au-delà, pardon, mais le seul en Europe, dans la mesure où, effectivement, la France, jusqu'à maintenant, connaissait relativement moins d'arrestations d'extrême droite que l'Allemagne et l'Espagne, par exemple. Les choses sont en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France représente à peu près la moitié des arrestations des terroristes d'extrême droite en Europe, alors que ça n'était qu'un tiers il y a 3 ans. Donc il y a une augmentation, il y a une spécificité française en la matière, une espèce de trajectoire particulière de la France, qui s'explique en partie par les attentats, comme on l'a dit, d'obédience islamiste qu'elle a connus sur son sol. Mais effectivement, c'est un terrorisme en progression un peu partout, mais plus particulièrement sur le sol français, alors que les autres formes de terrorisme, en particulier d'extrême gauche, et même le terrorisme islamiste, est en perte de vitesse ces dernières années. Donc c'est une des spécificités, en effet, du terrorisme d'extrême droite.
Comment est-ce que vous expliquez, Sébastien Bourdon, cette spécificité française, cette augmentation du nombre d'actes ou de tentatives de cette démarche terroriste d'extrême droite ?
Alors, on a déjà cité un certain nombre de facteurs. Évidemment, la question des attentats que la France a connus.
Il y a eu des attentats dans bon nombre de pays d'Europe, pourtant.
Bien sûr, mais ceux en France ont quand même été d'une ampleur particulièrement importante. Il y a également, on l'a mentionné, disons, la toile de fond du discours et du glissement, ou en tout cas de l'évolution du pays, du discours public en direction de l'extrême droite. Et puis, j'ai envie de dire, il y a une certaine forme de savoir-faire français, de tradition historique française, d'une tradition militante et politique d'extrême droite qui a longtemps été très importante.
Ce savoir-faire français, il faut nous le décrire.
La collaboration, entre autres, en est un exemple. Parmi les exemples également qui sont très souvent cités par les jeunes militants auxquels ils font beaucoup référence, la division SS Charlemagne, ces Français qui se sont engagés portés volontaires pour se battre au sein de la SS en est un autre. Dans le même livre d'entretien que je citais tout à l'heure, il y a quand même un autre militant Tourangeau, qui disait se situer du côté historiquement, quand on lui demandait quelles sont ses références, il disait la milice. Toutes ces différentes formes d'organisation font partie de l'histoire de notre pays et sont autant de références et presque de modèles auxquels peuvent se référer un certain nombre de militants d'extrême droite à l'heure actuelle.
Un historien spécialiste de l'extrême droite, Nicolas Lebourg, il s'exprimait sur France Info et évoque le changement de catégorie socio-professionnelle au sein de ces mouvements d'extrême droite.
C'est un groupe qui veut s'opposer à l'islamisation, qui cultive une idée un petit peu militaire dans son style. Mais ensuite, il y a les attentats de novembre 2015. Et là, il y a une partie des militants qui vont commencer à se dire que parler, ça ne suffit pas, qu'il faut agir. Ce sont des gens intégrés socialement. On a dedans beaucoup de fonctionnaires. Des fonctionnaires des services de sécurité, mais aussi, par exemple, des enseignants. Alors ça, c'est très intéressant, parce que la violence d'extrême droite en France, dans les années 80-2000, c'est des gens des classes extrêmement populaires, des gens marginalisés socialement. Là, on n'a plus du tout la même chose.
Nicolas Lebourg, il parlait d'un groupe, en particulier Action des Forces Opérationnelles. Sébastien Bourdon, qu'est-ce que vous avez observé, là aussi, du point de vue sociologique ? Qui sont ces gens, ces hommes, très largement, qui composent ces groupes d'extrême droite ?
Alors, on a, j'ai envie de dire, un peu deux types de profils. Le profil du suspect principal, enfin du suspect du meurtre de ces derniers jours, c'est un homme d'une cinquantaine d'années. Dans les différentes affaires récentes, je mentionnais la tuerie de la rue d'Anguin il y a quelques années, on a également l'attaque de la mosquée de Bayonne en 2018, on est plutôt sur des profils de personnes assez âgées. Par exemple, Claude Cinquet, qui avait donc tenté d'incendier la mosquée de Bayonne en 2018 et qui avait blessé deux fidèles par arme à feu, était octogénaire au moment de son passage à l'acte. Donc on a des profils, pour le coup, de personnes, disons, proches de l'âge de la retraite, si ce n'est au-delà. Mais on a également, en parallèle, on observe un rajeunissement dans un certain nombre de groupes, avec un nombre de mineurs mis en examen dans des affaires terroristes ces dernières années, que ce soit des affaires liées, des affaires de terrorisme djihadiste ou des affaires de terrorisme d'extrême droite. on a une augmentation du nombre de mineurs impliqués, avec même parfois des affaires où c'est quasiment exclusivement des mineurs qui projettent des attentats.
François Tully, on l'a dit, hein, il y a une sociologie évidente de ces groupuscules. Il y a également une géographie. Ce qui est impressionnant, c'est que ces groupes se forment, se renforcent dans des villes bien spécifiques. Je pense notamment à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bourges. Dans ces quelques villes, on a l'impression qu'ils concentrent une grande majorité de ces groupuscules. Comment se fait-il qu'ils se développent dans des territoires particuliers ?
Alors il faudrait superposer la carte justement de la menace islamiste et également la carte du vote RN pour avoir une explication sans doute un peu plus pertinente. Je souhaiterais revenir sur le profil sociologique et la présence des militaires, des policiers, enfin des forces de l'ordre justement en leur sein. Je pense que c'est un point extrêmement intéressant parce que ça fait aussi la spécificité du terrorisme d'ultra-droite, cette forte présence des forces de l'ordre. La DGSI, dernièrement, avait évoqué le fait qu'une cinquantaine de membres des forces de l'ordre qui appartenaient à cette mouvance violente, ça n'est pas innocent, ce sont des gens qui ont accès aux fichiers de souveraineté, enfin aux fichiers de police, qui ont accès à des armes, qui ont une capacité à s'organiser relativement supérieure au commun des mortels. Donc ce sont quand même un critère de dangerosité extrêmement important, vous voyez. Après, la cartographie dépend sans doute des personnalités qui s'agrègent autour et qui organisent justement ces petits groupes.
Sébastien Bourdon, si je prends l'exemple de Lyon par exemple, cela fait déjà plusieurs années, nombre d'années même, qu'elle est pratiquement la capitale française de ces groupuscules d'extrême droite. Là aussi, comment est-ce que vous le comprenez? Comment est-ce que vous l'analysez?
Alors la question de la ville de Lyon est assez intéressante, mais je pense que l'explication pour ce qui concerne cette ville se trouve notamment autour de la question des locaux d'extrême droite et de ces groupuscules. Il y a plusieurs organisations d'extrême droite, notamment Génération Identitaire, qui au cours des dernières décennies ont eu un, si ce n'est des locaux qui avaient pignon sur rue à Lyon. On peut entre autres citer Génération Identitaire, qui a eu un bar qui s'appelait La Traboule, qui a eu une salle de sport attenante qui s'appelait La Gaugée, et ces locaux sont autant de lieux de rencontre, des lieux de sociabilité où il est possible en tant que groupe, que groupuscule d'extrême droite, d'organiser des événements et d'inviter des sympathisants à venir vous rencontrer, s'engager, etc. Et autour de ces locaux, il y avait également une stratégie dite métapolitique, cette idée de, il est évidemment beaucoup plus simple de proposer à un jeune de vous rejoindre en lui disant, viens boire une bière avec nous ce soir ou vient faire du sport avec nous, plutôt que lui proposer directement d'aller distribuer des tracts. Et donc ça permettait une sorte de porte d'entrée facilitée dans ces différents groupuscules.
Est-ce qu'il y a une pertinence quelconque, François Tuillier, à comparer, à rapprocher les façons dont, j'allais dire, les acteurs du terrorisme islamiste justement attirent vers eux des jeunes gens et ces groupuscules d'extrême droite que l'on décrit à l'instant?
Oui, encore avec la réserve suivante, c'est que quand on parle de locaux, quand on parle d'associations, quand on parle de groupuscules, comme c'est le cas dans le Vieux-Lyon, ce sont des gens effectivement à surveiller. Mais les derniers cas, les derniers réseaux qui ont été arrêtés ces dernières années, qui étaient susceptibles de passer à l'acte, n'étaient pas du tout ce type de profil. Hein. C'était des gens qui avaient une vision relativement clandestine de leur activité subversive. Donc c'est un petit peu différent, certes. Ces groupuscules qu'on retrouve un petit peu dans tous les locaux identitaires en France sont des gens qui peuvent être dangereux et qui ont des activités qui peuvent être illégales. Il n'en demeure pas moins que les derniers réseaux qui ont été arrêtés et démantelés ces dernières années, c'est pas tout à fait ce cas-là. C'était des gens qui, pour beaucoup, étaient composés d'anciens des forces de l'ordre ou de retraités et qui s'entraînaient de manière clandestine. Enfin, c'est tout de même un peu différent, vous voyez, comme approche.
Sébastien Bourdon, ces groupes-là, ils ont deux fonctions, j'allais dire une double activité même. On a parlé, et c'est important de l'avoir fait, on a parlé de la violence qui s'adressait à l'encontre des minorités ethniques et religieuses. Il y a aussi une démarche plus politique, il s'attaque aussi à des militants de gauche, d'extrême gauche, à des militants antifascistes.
Bien sûr, ça c'est la violence anticommuniste historique de l'extrême droite a été enfin est clairement un fil rouge de l'engagement militant à l'extrême droite, de l'engagement violent. On a en tête ces images d'affrontements dans les années 60-70 autour d'un certain nombre d'universités parisiennes par exemple, entre des militants à l'époque trotskistes, maoïstes, qui s'opposaient à des militants d'extrême droite. On a des versions réactualisées de ça à l'heure actuelle, et des exemples extrêmement récents. Il y a quelques jours encore, il y a un bar dans le sud de la France, à Alès, de mémoire, qui a été attaqué par un certain nombre de militants d'extrême droite. On a eu plusieurs affaires de ce type-là. On a eu une descente il n'y a pas si longtemps que ça à Paris, il y a quelques mois à peine, au cri de Paris est nazi, qui a visé une projection d'un film de Costa Gavras, qui était co-organisé par une organisation de jeunesse très proche de la Jeune Garde, qui est un groupe militant antifasciste. Bref, on a tout un tas d'exemples de violence, et d'ailleurs, un slogan qui revient assez souvent du côté de ces groupuscules, c'est de se revendiquer anti-antifa.
François Tuillier, s'attaquer à des minorités, s'attaquer à des militants, j'allais dire, quel est le poids de ces deux activités? Quelle est leur importance justement dans cette démarche menée par des groupuscules d'extrême droite?
Ce qui est important de savoir dans la spécificité justement de cette violence de l'extrême droite, c'est que, et c'est une spécificité importante sans doute, c'est le plus létal des terrorismes politiques. Le terrorisme d'extrême droite, par rapport aux autres terrorismes. Hein. C'est-à-dire que nous avons à peu près 56 morts depuis 1986 qui ont été dans ce type d'agression dont vous parlez, contre 7 à l'extrême gauche, pour la même période. Et encore dans les 7, on comprend les morts d'action directe. Donc ça représente à peu près ce que vous décrivez, c'est 70% en France des agressions politiques. C'est un taux extrêmement, extrêmement important. Donc, il y a une espèce de surreprésentation, si vous voulez, de cette violence d'extrême droite finalement, écrase tout le reste. Et ce qu'il est important de comprendre également, c'est que, comme l'islamisme d'ailleurs, ce sont des gens qui ciblent leur adversaire pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font, comme le fait l'extrême gauche. D'ailleurs, souvent, l'extrême gauche ne s'attaque pas aux personnes, sauf exception, et s'attaque plutôt au symbole, au bien, au symbole du capitalisme notamment. L'extrême droite est plutôt dans la diabolisation de l'ennemi, dans sa démonisation, et donc s'attaque plus volontiers aux personnes. C'est ce qui fait sa dangerosité.
Que peut l'État face à cela? Que peut également le législateur Sébastien Bourdon? Est-ce que, par exemple, la dissolution des groupuscules, je pense notamment à la dissolution de la division Martel en novembre 2023, on réalise que cela ne sert pas à grand-chose, que ces groupes-là renaissent sous d'autres formes, souvent d'une façon bien plus virulente, bien plus violente. Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors c'est une question difficile. Le fait est que depuis 2019, on a connu un nombre record de dissolutions de groupes d'extrême droite. Ça a commencé à l'époque avec Christophe Castaner, puis Gérald Darmanin. Et ce qu'on constate depuis cette période, c'est très clairement une montée en puissance de l'extrême droite, une multiplication des groupes, et notamment un nombre vraisemblablement de plus en plus important de militants. De ce point de vue-là, et c'est que la question du nombre est quand même assez représentative de cette montée en puissance, on parlait encore...
Vous diriez que ce sont les dissolutions qui augmentent aussi le nombre de militants, en tout cas qui participent de cette démarche-là?
Alors les dissolutions à minima donnent une forme de visibilité, c'est certain. Les dissolutions également permettent une multiplication des groupes avec une forme de territorialisation. Et par ailleurs, les dissolutions, au-delà d'augmenter le recrutement, favorisent une porosité grandissante entre les groupes et les chapelles. L'extrême droite, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'extrême droite radicale, historiquement, est divisée en un certain nombre de chapelles, trois principales. Et le fait est qu'avant ces dissolutions, donc avant 2019, chacune de ces chapelles en France était représentée, grosso modo, par une organisation politique active à l'échelle nationale. Quand on a trois organisations politiques actives à l'échelle nationale, ça crée un jeu de concurrence où les organisations essayent de se démarquer les unes des autres. Le fait est que ces dernières années, deux de ces trois organisations ont été dissoutes, le Bastion Social et Génération Identitaire. Ça a donc créé toute une myriade de plus petits groupes à l'échelle locale. Et une fois que vous êtes uniquement actif à l'échelle locale, vous avez moins de concurrence avec d'autres organisations parce que vous êtes les seuls implantés dans la ville. Et par ailleurs, lorsqu'il est question de passer à l'action, de passer à l'action violente, il est beaucoup plus, puisqu'il n'y a pas ces enjeux de rivalité, il est beaucoup plus simple d'aller coopérer avec les autres organisations. Et dans le fond, ces groupes s'accordent de plus en plus sur le fait qu'ils sont d'accord à peu près sur l'essentiel et que l'essentiel pour eux, c'est cette question du grand remplacement et cette question de la préservation de la race blanche, en tout cas pour reprendre leur terme et leur imaginaire. Simplement pour illustrer ça, la descente raciste de novembre 2023, la tentative de descente raciste de novembre 2023 à Romans-sur-Isère, qui fait suite à la mort du jeune Thomas à Crépol, cette descente raciste, elle regroupe quasiment une centaine de militants d'extrême droite. Et ce qu'on sait en termes de profil, puisqu'il y a une vingtaine d'interpellés, on retrouve des militants qui viennent des quatre coins de la France, qui ont parcouru des centaines de kilomètres pour être là, et surtout, on retrouve des militants de toutes les chapelles possibles et imaginables de l'extrême droite. Ça, c'est clairement une nouveauté, là où, avant les dissolutions, les chapelles et les groupes agissaient plutôt indépendamment les uns des autres.
On comprend bien donc que les dissolutions sont contre-productives. Je vous renvoie donc cette vaste question, François Tulier. Que peut l'État, que peut le législateur même ?
L'État peut tout. C'est-à-dire que c'est lui qui est chargé de réguler la violence sur le territoire, et donc à ce titre, c'est lui qui décide ou ne décide pas justement de faire baisser tel type de violence et d'augmenter tel autre. Je veux dire par là que la manière dont il a pris en compte la menace islamiste est suffisamment éloquent pour considérer qu'il pourrait tout à fait faire la même chose sur l'extrême droite violente. Si on arrive à dépasser cette impuissance et ce côté un peu anesthésiant dont on a parlé en début d'émission sur notamment la manière dont les forces de l'ordre et la police en particulier et la gendarmerie et l'armée aussi se positionnent par rapport à l'idéologie d'extrême droite, il y a des outils même relativement récents dans la loi SILT notamment du 30 octobre 2017, il y a des outils très concrets qu'on pourrait appliquer dès maintenant au-delà des dissolutions d'associations. Il y a un certain nombre de militants d'extrême droite qui sont d'ores et déjà connus, qui sont fichés S et dont on sait qu'ils détiennent des armes, par exemple. Je prends cet exemple parmi d'autres parce que simplement ils ont des permis de chasse ou des licences de tir. Eh bien, des visites domiciliaires sont tout à fait possibles pour aller chez eux et saisir leurs armes et revenir sur leur permis de port d'armes. Vous voyez, des choses comme ça qui sont relativement concrètes. Cette prise de conscience, il faut qu'elle soit faite au niveau politique aussi, c'est-à-dire il faut bien considérer que cette mouvance d'extrême droite est complètement contraire aux intérêts fondamentaux de la nation, notamment à la forme républicaine des institutions. Ce qu'a fait le gouvernement allemand, par exemple, vis-à-vis de l'AFD, le fait de permettre aux services de renseignement de recourir à des techniques intrusives de renseignement, de surveillance sur une mouvance comme l'AFD, pourrait tout à fait être fait en France, pour peu que, justement, cette prise de conscience sur la dangerosité de l'extrême droite violente soit faite. Mais c'est une décision politique.
L'État peut tout, Sébastien Bourdon, même pour contrer une idéologie, des idéologies, c'est plus compliqué là, lorsqu'il s'agit d'idées.
C'est évidemment compliqué, ça sera un processus au long cours. Les dissolutions ont clairement montré leurs limites, elles n'ont pas toutes aucune efficacité. Il faudrait évidemment, si on avait le temps, faire un bilan peut-être un peu plus contrasté que ce que j'ai dit rapidement. Il y a aussi un certain nombre de menaces qui vont venir dans les années à venir, je m'exprime mal, mais par exemple la question des retours de potentiellement militants d'extrême droite qui sont rendus en Ukraine pour combattre, qui ont acquis là-bas une expérience des armes et qui reviendront dans les prochaines années. Ça, c'est typiquement une question qui se posera et qui sera difficile à résoudre.
Merci beaucoup à tous les deux de ces éclairages, Sébastien Bourdon, François Tulier.